discuter en fait d'une hypothèse un peu d'un passage de la guérison au bien-être au prisme de l'instrumentation des nouveaux dispositifs d'action publique en matière de santé par les praticiens en médecine chinoise. Bon, c'est un peu large, donc évidemment dans cette communication, je ne vais pas tout prendre en revue, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu une vision globale de cette question. Donc, depuis le 19e siècle, les mobilisations d'un groupe de médecins en France permettent progressivement à l'acupuncture d'obtenir le statut d'orientation médicale, ainsi qu'un remboursement par la sécurité sociale et un diplôme universitaire officiel, qui pose ainsi en fait l'acte d'acupuncture en France comme un acte médical qui est soumis à la loi sur l'exercice illégal de la médecine. Donc, c'est là qu'on voit qu'on est dans une situation bien différente de ce qu'on a vu avant. Cela s'est élargi il y a quelques années avec l'entrée en fait des sages-femmes dans le processus qui peuvent maintenant pratiquer des actes d'acupuncture dans leur domaine de compétences. Et cette institutionnalisation se poursuit aujourd'hui tout en étant en fait confrontée à un phénomène nouveau qui est que parallèlement en fait à la perte d'effectifs de médecins acupuncteurs, on a en fait une visibilité croissante d'acteurs qui se revendiquent du statut de praticien en médecine chinoise, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et qui montrent en fait des cabinets qui fournissent des soins sans être donc médecin conventionnel. En 2002, l'Organisation mondiale de la santé soulignait que la popularité croissante en fait des médecines traditionnelles dans les pays industrialisés devait donner lieu à une stratégie, donc qu'ils ont lancée. Et le positionnement de cette instance mondiale sur le sujet entraîne la reconnaissance de certaines formes de médecine traditionnelle et alternative, donc, dont la médecine chinoise, tout en affirmant en fait le rôle régulateur que doivent tenir les acteurs gouvernementaux dans leur diffusion. Et selon ce rapport, 75% de la population française a eu au moins utilisé une fois la médecine complémentaire et parallèle. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de revenir sur ce que disait Didier Fassin en 1996 dans l'espace politique de la santé. Donc, je le cite. « À cet égard, les formulations officielles comme celle fameuse qu'en a donnée l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire un état de bien-être physique, moral et social, ne peuvent être considérées comme neutres. Le choix de cette définition, aujourd'hui presque universellement acceptée, relève à la fois des objectifs opérationnels, fournir un cadre pour les actions de santé publique, permettant notamment d'offrir un contrepoint aux conceptions plus strictement médicales, et de logique institutionnelle, répondant à un souci de légitimation de cet organisme international et de consensus des pays qui le soutiennent. » Donc, à partir des pratiques de la médecine chinoise, donc je vite rapidement, la médecine chinoise, c'est l'acupuncture, mais aussi des massages qu'on appelle les massages shuina, la diététique, la pharmacopée chinoise, donc voilà, pharmacopée, et tout ce qui est pratique psycho-énergétique de type Qigong, Tai Chi. Donc, à partir de ces pratiques de médecine chinoise et de leur intégration en France, nous proposons de dérouler ici en fait des processus un peu convergents entre une évolution de la demande sociale, des politiques publiques de santé et des processus d'adaptation et de transformation du milieu médical. Donc ces trois processus nous semblent en fait conduire on peut questionner le fait d'aller vers un nouveau paradigme qu'on pourrait qualifier de bien-être, en opposition à une vision de la santé se réduisant à la maladie et à la guérison. Donc, ainsi, on peut se demander si le bien-être est un nouveau domaine légitime d'intervention d'État, des médecins, ou est-ce qu'il faut créer de nouvelles professions de santé autour de ça. Donc, j'ai mis ici le corpus d'enquête. Hein, je ne reviens pas, on pourra revenir dessus si vous avez des questions, mais je passe. Donc, pour saisir la réorganisation des questions de santé autour de ce paradigme du bien-être, le cas de la médecine chinoise en France apparaît comme singulier et pertinent sur deux aspects. Donc, tout d'abord, contrairement à d'autres pratiques dites alternatives dans le domaine de la santé, la médecine chinoise renvoie à toute une histoire et un corpus de connaissances, en fait, qui a fonctionné depuis des milliards d'années en Chine. Et donc, en fait, c'est en cela, on peut quand même le poser comme quelque chose de différent, avec des pratiques qui ont été bricolées, plus ou moins dans une perspective un peu New Age, ou même d'autres pratiques qui sont arrivées plus tard. Et deuxièmement, contrairement même à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est le degré aussi d'institutionnalisation de la pratique en France. C'est-à-dire que le mode d'introduction de la médecine chinoise en France est passé d'abord par les sociétés médicales Et donc, ça laisse penser quand même qu'il y a eu une forme de reconnaissance d'une culture médicale et un intérêt en fait précoce des médecins pour cette pratique. Elle présente donc un système médical qui pourrait apparaître comme alternatif ou complet ou global, et dont les principales composantes sont posées en tout cas comme la prévention de la santé et son maintien par la bonne circulation des fluides dans le corps. Donc ici, je vais présenter enfin, je vais montrer que cette vision s'inscrit dans un mouvement plus large de politique publique de santé. Et cela va en fait permettre de voir dans une première partie en quoi ce paradigme du bien-être permet une extension du domaine d'intervention de l'État, mais aussi une potentielle ouverture à de nouveaux acteurs de santé. Ainsi, pour donc les praticiens que j'ai décrits comme étant non diplômés de médecine conventionnelle, qui sont en fait formés dans des écoles privées, c'est la possibilité peut-être d'une reconnaissance par l'État. Parce que si le paradigme dominant donc n'est plus la seule guérison ou la maladie, alors l'expertise médicale n'a plus le monopole et d'autres savoirs, en fait, d'autres praticiens peuvent intervenir. Et d'un autre côté, en fait, je vais montrer les résistances fortes du milieu médical, mais aussi le fait qu'on ne peut pas parler vraiment en fait d'un basculement total du paradigme, enfin, vers un paradigme du bien-être, puisque le curatif reste dominant, bien évidemment. Tout comme l'évaluation scientifique et économique qui s'impose. Et je montrerai donc la position ambiguë en fait des acupuncteurs médecins ou membres des professions médicales qui tentent de se légitimer dans le champ médical et politique en s'appuyant sur les nouveaux dispositifs d'action publique, donc les mêmes dispositifs, et en jouant en fait sur ces notions aussi de santé et de bien-être. Donc, dans une première partie, je vais partir ici principalement en fait des nouvelles lois hospitalières qui ont entraîné une nécessaire adaptation des instances de santé, par exemple avec l'organisation de soins palliatifs, les négociations avec les associations de malades, la création de soins de support, etc. Et ensuite, je montrerai comment l'instrumentation de ces dispositifs donc offre des opportunités pour les praticiens en médecine chinoise. Donc, en France, en fait, voilà, globalement, le gouvernement de la santé s'est plutôt focalisé sur la prise en charge des maladies et donc sur l'offre de soins, une offre de soins principalement curatif. Et depuis plusieurs années, on voit que les chercheurs, les sociologues, les chercheurs en santé publique considèrent que ce système de santé n'est pas vraiment adapté face aux nouveaux enjeux, en matière de santé. Donc, là, on peut parler notamment des maladies chroniques, etc. Et d'autre part, on voit aussi que sont mis en avant des principes d'individualisation, de responsabilisation et d'autonomie de l'individu, comme ça a été évoqué d'ailleurs ce matin. Et enfin, on voit aussi le rôle important de la gestion des économies de santé, qui est centrale dans les politiques publiques. Au niveau des administrations de santé, elles sont de plus en plus souvent saisies par des pratiques non conventionnelles. Comme l'affirme notamment un conseiller médical que j'ai rencontré, qui est en poste au sein d'un bureau de la Direction générale de l'offre de soins, et qui dit que pour lui, l'important, c'est que ces pratiques non réglementées n'empiètent pas sur les compétences d'autres professionnels. Donc il dit, je cite, oui, on est sur la frontière entre bien-être et soins. Il y a un débat, une évolution de la position de l'INSERM, de la PHP, de l'Académie de médecine sur ces sujets. Beaucoup de députés s'interrogent sur ça. Et un peu plus loin, il déclare, il faut tenir compte du principe de réalité et des demandes de la société. Donc, il parle de ces fameuses demandes de pratiques non conventionnelles. De plus, la prévention prend une place de plus en plus importante dans le gouvernement de la santé, comme on le voit notamment avec les différentes lois et aussi tout ce qui a été analysé autour de l'hôpital, donc par Bellorger ou Benamozic sur les questions économiques. Et la prévention est aussi un des objectifs de la loi de modernisation du système de santé qui est déjà très controversée, avec notamment la stratégie nationale de santé qui l'avait précédée et qui mettait en avant changement de paradigme avec un passage d'une logique centrée sur le soin vers une logique centrée sur la santé dans le cadre d'une approche globale. Donc on voit déjà ici en quoi toutes ces médecines peuvent s'appuyer sur ces dispositifs, hein, l'idée de globalité, l'idée de santé plus large, etc. Donc voilà, on peut parler globalement d'un nouveau gouvernement de la santé qui laisserait la place à des pratiques de bien-être, du moment qu'elles n'empiètent pas sur l'expertise médicale, comme l'affirme aussi un conseiller du ministère de la Santé rencontrée l'année dernière. Donc je vous cite ce qu'il dit parce que c'est un petit peu long, mais c'est intéressant de voir le positionnement officiel en fait au niveau du ministère de la Santé. Donc il dit « Toutes les pratiques qui touchent au corps humain à des fins de soins sont de la pratique médicale. » Donc là c'est clair. « La pratique médicale n'a pas vocation à couvrir tout le champ de la santé. » La santé ne se limite pas à la pratique médicale. Toutes les mesures d'hygiène de vie, de prévention, de coaching, d'exercice physique, de prévention, de lutte contre le tabac, les addictions et tout ça, ce n'est pas le champ exclusif de la médecine et de la pratique médicale. Donc un peu plus loin dans l'entretien, il insiste. Mais il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus. À aucun moment, on ne peut considérer que la médecine a l'exclusivité de la santé. On ne peut pas résumer la santé et le bien-être à la médecine. La médecine n'est qu'une part, une petite part de la santé et du bien-être. Et donc, il n'y a pas de raison de vouloir faire rentrer tout le champ de la santé et du bien-être dans la médecine. Ce n'est absolument pas justifié. Donc, ainsi, dans sa vision, la santé, ce n'est pas uniquement le médical. Et du coup, on voit comment le ministère de la Santé peut avoir un poids, mais aussi de manière plus large, en fait, comment d'autres domaines peuvent intervenir aussi sur la santé. Notamment, on pense au ministère des Sports, maintenant, avec les campagnes de prévention, etc. Mais aussi, on peut voir comment de multiples acteurs peuvent avoir, en fait, un nouveau droit de parole sur la santé. Et c'est ce que je vais voir maintenant avec les praticiens en médecine chinoise. Donc, les praticiens en médecine chinoise, non médecins, dans un premier temps. J'utilise ces catégories qui sont utilisées par les médecins et les non-médecins, enfin médecins non-médecins, bien sûr c'est plus compliqué que ça, mais ça permet quand même de poser les choses en termes du moins d'institutionnalisation. Donc pour ces praticiens en fait en médecine chinoise, présenter leur pratique comme du bien-être est important parce que ça leur permet en fait d'éviter d'empiéter sur les prérogatives des médecins, comme on a pu le voir aussi tout à l'heure avec Nicolas. Et donc, en fait, pour eux, c'est aussi éviter le risque d'un procès pour exercice illégal de la médecine. Parce que du moment qu'ils ne sont pas dans quelque chose de différent, dans du bien-être, ils ne vont pas être sur du médical. Et en même temps, ils vont essayer de se détacher justement des pratiques de bien-être pour pouvoir se faire reconnaître comme une profession de santé à part entière, avec vraiment, donc du coup, tout ce discours aussi que tu disais sur le curatif, etc., la guérison. Donc, le contexte que j'ai décrit plus haut crée différentes opportunités pour ces praticiens. Et donc, je vais en évoquer quelques-unes. Donc, déjà, il faut savoir que ces praticiens sont regroupés en 5 minutes. Non, 7. Donc, il faut savoir que ces praticiens sont regroupés en associations professionnelles, en syndicats, et qu'ils ont vraiment des démarches envers les ministères de la santé, envers le politique, etc. Et donc, ils vont essayer de montrer le rapport coût-efficacité de leur pratique, notamment en présentant des livres blancs, un manuel de qualité, en cherchant à mettre en place une norme ISO. Voilà, ils utilisent vraiment tous les répertoires d'action. Ils s'appuient sur le modèle européen pour aussi contourner un petit peu la situation particulière en France par l'observation en fait, d'autres modèles. Ils s'introduisent aussi dans les brèches de la loi, notamment en utilisant toutes les possibilités offertes par la réforme hospitalière que j'ai évoquée tout à l'heure, notamment dans le cadre des équipes pluridisciplinaires. J'ai vu par exemple des praticiens de shiatsu dans un service de diabétique à la PHP qui peuvent rentrer justement dans le cadre de cette nouvelle loi, notamment l'article 51 de la loi HPST qui permet la mise en place à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain de transfert d'actes et d'activités de soins et de réorganisation des modes d'intervention auprès des patients. Donc ça a permis notamment à des infirmières de pratiquer des soins d'acupuncture à l'hôpital par délégation de soins en fait avec des équipes médicales. Donc ces démarches d'organisation professionnelle vont donc s'appuyer en fait sur cette nouvelle définition étatique de la santé comme état de bien-être pour tenter de faire reconnaître une nouvelle profession de santé qui ne soit pas justement médicale. Et donc je vais voir très rapidement que dans une deuxième partie que ces réformes de santé et du système de santé restent avant tout aussi des opportunités pour les professions médicales en fait d'exercer l'acupuncture et de la faire reconnaître comme pratique, comme technique en fait ayant une place au sein de la médecine elle-même et du système de santé. Je vais montrer que les administrations de santé restent tout de même réticentes et prudentes face à ces pratiques et que c'est aussi une opportunité pour les médecins acupuncteurs de se poser comme les seuls garants en fait d'une expertise dans ce domaine. Et de maintenir ainsi, ils vont jouer ainsi entre la notion d'extension de la santé, mais aussi la séparation entre le bien-être et le soin, pour dire qu'ils sont vraiment en fait, que c'est le groupe de médecins qui va se poser comme garant en fait de ce soin et qu'il faut exclure les non-médecins. Donc l'entretien avec des membres du bureau de la direction générale de l'offre de soins, que j'ai évoqué tout à l'heure, permet tout de suite de dresser le décor. C'est-à-dire qu'après avoir refusé l'enregistrement de l'entretien, en fait, le médecin conseil qui me reçoit avec une de ses collègues juristes refuse de compléter un petit questionnaire sociologique que j'avais distribué en début d'entretien en me disant « Mais ma trajectoire personnelle, elle ne regarde que moi. Attendez, je ne suis pas du tout pour l'intégration des médecines complémentaires. Ce n'est pas mon rôle à moi, je ne fais pas ça. En tant que médecin, je ne fais pas ça. » Donc voilà, plus loin il a ajouté que ce soit côté soigner ou se sentir mieux, la reconnaissance d'une pratique doit se justifier par des données scientifiques. Donc ici on voit bien que l'idée du critère de l'évaluation est placée en premier. Donc d'ailleurs, ça a été l'occasion de créer en 2007 un bureau dit qualité des pratiques au sein de la Direction générale de la santé, qui en fait est là pour justement garantir cette évaluation. Et c'est le directeur général de la santé à l'époque qui avait dit en fait, si vous ne vous occupez pas de toutes ces pratiques qui fleurissent, ça sera le drame du 21e siècle. Donc en 2009, un arrêté entérine la création d'un groupe d'appui technique pour les pratiques non conventionnelles. Et des membres du bureau, donc qualité des pratiques, résument la situation comme ceci. Donc je cite. Pour une pathologie donnée, on ne dit pas « ça fait du bien pour tous », c'est quand même bien précis. Tout ce corpus de pratiques de soins, au-delà de la médecine chinoise, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils soignent tout. Pas de contre-indication, jamais d'accident, zéro. Voyez, nous, on est obligé d'avoir une démarche beaucoup plus rigoureuse et la même pour tout le monde. Voilà, pas plus, pas moins. De même, en fait, ce bureau a été saisi de l'évolution en fait, de ces pratiques dans le cadre hospitalier et il s'étonne en fait, de voir que... au niveau de la PHP, il y a déjà eu l'entrée en fait, de praticiens sans que l'État n'ait plus ou moins, enfin, ait pris en charge cela. Donc, du coup, les agents du Bureau Qualité des Pratiques présentent la question des médecines non conventionnelles selon trois niveaux de dérapage, selon leurs termes. Donc, premièrement, un dérapage technique avec la notion de perte de chance, d'utilisation extensive de la technique. Notamment, voilà, un des médecins du bureau dit « c'est pour des raisons esthétiques, c'est pour des raisons de bien-être, mais n'empêche que c'est toujours sur le corps humain qu'on agit et qu'on crée des dégâts ». Donc on voit bien cette idée de risque. Le deuxième dérapage, c'est un dérapage économique avec la notion de marché, l'idée qu'avant, en fait, il y aurait une vision d'un médecin par vocation et maintenant un médecin plutôt malfrat en quête d'argent. Et enfin, un dérapage plus grave en termes de secte qui est renvoyé à la mi-vélite. Donc l'argument scientifique est alors brandi comme première garantie pour éviter ces dérapages, puisque selon les mots du chef du bureau, le dérapage commence déjà quand on n'a pas prouvé en fait ce qu'on fait. Et c'est donc cette injonction à l'évaluation qui pèse dorénavant sur les praticiens, sur les médecins acupuncteurs, dont la position est là aussi ambiguë, puisqu'ils vont être entre la nécessité de montrer que ces pratiques intégrées aux professions médicales vont dans le sens d'un élargissement de la définition de santé et donc de l'intervention des médecins sur des questions qui avant n'étaient peut-être pas strictement médicales. Et là, juste un exemple, en fait, par exemple, dans les procès avec les praticiens non médecins, quand ils les accusent donc d'exercice illégal, ils vont pouvoir saisir parfois la définition de la santé de l'OMS pour dire que tout ce qui révèle du soin, en fait, est médical. Et d'un autre côté, c'est pour eux la nécessité de maintenir en fait cette frontière entre bien-être et médical pour prouver la place de ces techniques au sein du champ médical, donc comme médecine en fait, comme une technique qui pourrait appartenir à la médecine conventionnelle. Donc pour cadrer avec ce dispositif, les organismes professionnels, cette fois des médecins acupuncteurs, vont utiliser de plus en plus la médecine d'épreuve, donc des essais contrôlés, enfin essayer de faire une recenser des essais contrôlés randomisés, réaliser eux-mêmes des essais. Ça a été le cas notamment avec les programmes hospitaliers de recherche clinique à la PHP qui ont pu permettre de développer ce type de recherche. Et donc, en montrant, je vais clôturer, et en montrant l'intérêt de l'acupuncture dans des groupes pluridisciplinaires, dans des démarches au niveau des soins de support, notamment en cancérologie, par exemple, ça peut être des endroits où peuvent s'intégrer ces pratiques. Et ils vont donc s'appuyer ainsi sur tous ces nouveaux instruments d'action publique que j'ai identifiés plus haut, et notamment le système d'évaluation de la HAS pour faire reconnaître leurs techniques. Et juste pour donner un exemple, à la PHP, il y a eu un essai sur les douleurs lombaires et pelviennes des femmes enceintes traitées par acupuncture, qui a donné lieu, à côté en fait de la clinique, à tout un examen approfondi sur les avantages coûts-bénéfices, voilà, et les avantages en termes d'économie de santé. C'était inclus à l'essai en fait. Donc du coup, cette acupuncture et sa vision holistique et préventive est valorisée comme étant en parfaite adéquation avec la vision plus globale de la santé et la place du patient au cœur du système de soins qui est promu actuellement. Donc je vais passer mon dernier argument pour aller directement à la conclusion et simplement dire que malgré les freins et réticences, on a des intérêts d'un segment de médecins et d'une fraction de l'univers du bien-être qui vont pouvoir se retrouver à un moment donné en phase en fait avec ceux de certains acteurs œuvrant au sein d'une autre écologie, pour parler un peu avec les termes d'Andrew Abbott, et cette écologie étant celle des réformes de santé publique, et qui peut ainsi faire réfléchir en fait un petit peu les rapports de force au sein de l'écologie du traitement des problèmes publics de santé. Donc on a un réel débat aujourd'hui sur cette question de bien-être qui segmente différents acteurs étatiques et qui prend des formes différentes selon les administrations et les institutions qui les portent. Et dans tous les cas, ce phénomène, donc, qui est caractérisé souvent comme phénomène de société, peut apparaître en fait comme une opportunité d'intervention de l'État pour réguler des domaines dans lesquels il n'apparaissait pas avant. Je vous remercie.
Merci beaucoup d'avoir respecté les délais. C'était voilà, c'était riche aussi comme intervention. Alors, moi, je vais utiliser mon privilège pour poser la première question. Et du coup, ces discours sur le bien-être, est-ce que vous avez l'impression, comme le montrait Nicolas, qu'il y a aussi des questions de masquage?
Bien sûr.
Oui, vous avez aussi des discours, recueilli des discours sur des guérisons.
Oui. Et en fait, c'est ce que j'essayais de montrer sur les démarches des praticiens donc, qui sont pas médecins et qui essayent de se faire reconnaître comme une profession de santé à part, en fait. Il y a tout ce jeu et cette ambiguïté, justement, entre être dans le bien-être pour dire, voilà, nous, on ne fait pas des diagnostics, on fait des bilans énergétiques. Nous, on ne fait pas enfin, voilà, on fait pas de l'acupuncture, enfin, si, on fait de l'acupuncture, mais toujours, en fait, donner des critères comme ça, juridiques, qui permettent d'éviter les procès. Et à côté, justement, avoir suffisamment de visibilité médicale, enfin, dans le sens, on fait du soin, on est présent, ils peuvent s'appuyer par exemple sur des reportages dans les hôpitaux chinois, etc. Il y a des guérisons. Donc là, c'est quand même moins masqué qu'avec l'Ayurveda, parce qu'il y a cette démarche aussi très forte de reconnaissance qui est en cours. Et donc, qui peut être porté du coup par les syndicats et les organismes professionnels. C'est-à-dire qu'à titre individuel, effectivement, ça va être masqué pour éviter les procès, mais à titre collectif, par le syndicat et par les associations professionnelles, c'est au contraire mis en avant.
Des questions? Oui.
Alors, ça arrive, il y a des liens. Moi, sur ce que j'ai étudié, enfin, sur l'état actuel en fait en France, ce qui est le plus visible, donc, c'est des grosses structures associatives, même fédératives, on va dire, qui regroupent plusieurs écoles qui sont vraiment françaises, enfin, qui sont basées en France, qui sont tenues par des Français, etc. Mais par contre, qui ont la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, des liens avec une université, ou alors, pas toujours des universités, mais la plupart du temps des universités chinoises, et donc qui envoient leurs étudiants en stage, en fait, pendant 1, 2 semaines. Donc ça peut être en Chine, en Corée, voilà. Donc il y a des liens de ce type-là. et qui peuvent donner lieu à des gens, des personnes qui restent sur place et qui se forment là-bas pendant plusieurs années. Et donc là, comme avec ce qu'il disait pour l'Ayurveda, on va avoir aussi une segmentation en termes de légitimité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, donc est-ce qu'il faut avoir été formé en Chine ou pas. Et en plus de ça, rentre la question justement des médecins acupuncteurs qui là sont dans une quand même une appropriation en fait du savoir médical chinois qui est là depuis plusieurs années. Donc c'est assez construit, c'est quelque chose qui se sont vraiment appropriés et qui du coup se passe un peu de ces voyages en Chine. On va dire que ça peut être le cas, mais ce ne sera pas forcément pour se former. Et, sachant qu'il y a vraiment encore plus de connaissances en France autour de ça. Donc voilà, il y a des questions de légitimité qui se jouent à la fois au sein des médecins aussi, entre ceux qui lisent dans le texte, qui lisent le chinois, donc qui peuvent aller puiser dans les textes anciens. Là, j'en ai pas parlé, mais on a Lucia Candelis et Roland Guillou ont bien identifié deux tendances, en fait, traditionnalistes et modernistes au sein des médecins acupuncteurs, donc avec cette question-là. Et pareil, au niveau des praticiens, ça se joue un peu sur le même mode. Et il y a encore une troisième catégorie qui est peut-être encore moins visible et qui est liée à la diaspora, enfin à l'immigration en fait. Et là, j'ai moins de données par contre dessus sur les, parce que c'est moins visible aussi. Ça reste dans le cadre de.
Est-ce qu'il y a un impact, pardon,
oui. Oui. Oui.
Ils ne sont pas déclarés comme, ils n'ont pas eu leur diplôme de médecine en France. Mm. Et je ne sais pas, est-ce que, par exemple, ce sous-groupe de tradition entre dans votre intérêt
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est le. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai lu d'ailleurs, oui, vos travaux. Effectivement, moi, après, j'ai peu d'accès à. Vraiment aux familles chinoises. J'ai eu quelques entretiens où ça a été évoqué, notamment un praticien de la PHP qui exerce à côté en fait dans un cadre familial et entre amis, mais j'ai peu de données là-dessus. Mais par contre, effectivement, des praticiens qui exercent en dehors de la légalité, oui, c'est eux justement qui se mettent dans des associations et qui essayent de faire reconnaître une profession qui soit un petit peu à part de la profession médicale. Voilà.
D'autres questions ? Ben on est dans les temps, là, super, c'est parfait. Donc, on met la fin de cet atelier. Merci beaucoup à tous les deux, en
Merci.
Tout cas. Vous avez deux interventions bien complémentaires.
Oui.
C'est très intéressant, merci beaucoup. Et puis, il faut que vous vous rapprochiez de Sinsang, que vous partagiez peut-être ce
Bah oui.